Antoine Michel.
À 8h ce matin, une centaine de gendarmes ont investi la commune d'Olon, accompagnés de chiens policiers, pour permettre aux géologues mandatés par la CEDRA d'effectuer les travaux.
Avec le podcast 1001 Archives, revivez des moments de l'histoire suisse. 1001 Archives, à écouter sur l'application Play RTS, rts.ch/audio, Spotify, Apple Podcast et la plupart des plateformes d'écoute.
De nuit comme de jour, RTS Première.
Dany Laferrière et M. Les Boom, bonjour.
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 Pourquoi écrivez-vous, M. Les Boom ?
J'écris parce que j'ai une histoire et qu'elle est éminemment romanesque. J'écris pour faire lien, j'écris pour combler les trous.
Et vous, Dany Laferrière ?
J'écris parce que j'ai été choqué de ne pas trouver le nom de ma grand-mère dans les livres. Et j'ai vu que les grands écrivains mettaient toujours des noms de la parenté. Donc j'ai écrit pour que ces femmes, ma mère, ma grand-mère, mes tantes, ma sœur, puissent entrer dans la fiction, la tête haute.
Une qualité indispensable pour écrire, Dany Laferrière ?
Bon, avant je disais que c'était d'avoir de bonnes fesses. Parce que, bon, quand on est jeune, on bouge tout le temps. Et écrire, c'est s'asseoir. Aujourd'hui, je crois, un bon dos. Parce que c'est là qu'on a mal. Et je crois peut-être plus tard, ça va être une bonne chaise.
Et pour vous, aimez-vous ?
Alors, j'ai envie de dire presque mot pour mot ce que Dany vient de dire. Tellement ça me semble évident. Après, je pense que la qualité qu'il faut pour écrire, c'est une bonne dose de folie, de la persévérance, peut-être.
Et un défaut indispensable pour écrire ?
J'ai tendance à penser que les écrivains, mais aussi les autres artistes, on a une espèce d'ego à la fois surdimensionné et fragile.
Et vous, Dany Laferrière ?
L'absence de curiosité.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, etc. Lilia Hassel.
Bienvenue dans Etc. Aujourd'hui, une émission où on traverse les continents et les imaginaires. Il sera question d'exil et d'enracinement, de mémoire et du présent, de la transmission des histoires et de la langue française comme territoire mouvant où s'inventent de nouvelles voies. Avec nous, M. Les Boom, romancière camerounaise qui, dans Le rêve du pêcheur, raconte l'histoire d'un village perdu au bord de l'Atlantique, Campo, et d'une famille prise dans les filets du destin. Trois générations entre les rives du fleuve Thème et les rues de Paris qui portent en elles les traces de l'histoire coloniale, de la violence sociale, des arrachements et des renoncements. Un roman où la transmission est à la fois un fardeau et une grâce et où l'Afrique est toujours présente dans les paysages, dans les croyances, dans les silences. Face à elle, Dany Laferrière, écrivain haïtien-canadien, académicien pas français donc, et figure majeure de la francophonie. Dans Grand Intérieur Rouge, il entremêle Port-au-Prince et Paris, Matisse et le bidonville, le rouge du sang et le rouge de la peinture. C'est un roman dessiné où le texte et l'image se répondent, où l'art devient un moyen de survivre, de résister, de raconter. Chez Dany Laferrière, on trouve l'humour et la tendresse, mais aussi la lucidité de celui qui sait que l'art est à la fois un refuge et une arme. Tous deux se retrouvent sur un terrain, celui de la littérature comme espace de liberté, comme dialogue entre les voix, comme lieu où l'on peut être à la fois d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui dans Etc., on parlera donc avec nos invités et nos libraires francophones d'héritage et de création, de transmission et de révolte, d'art et de vie, ce qu'on fait de ce qu'on reçoit et ce qu'on invente avec ce qu'on perd. Vous écoutez Etc., c'est parti.
Etc.
M. Les Boom, Dany Laferrière, rebonjour à tous les deux. M. Les Boom, vous avez reçu cette année le prix des 5 continents de la francophonie pour votre roman Le rêve du pêcheur. Dany Laferrière, vous étiez présent, vous avez même prononcé un discours, etc. est une émission francophone. Alors je voulais vous demander, qu'est-ce qui vous inspire ce mot de francophonie à tous les deux, Dany Laferrière ?
Oh, c'est pas un mot que j'ai aimé. J'ai l'impression qu'il faut pas mettre des mots sur des projets aussi intenses et vastes que la littérature, que le goût de dire des choses. Mais je rends grâce à ce mot qui m'a permis de rencontrer beaucoup d'écrivains du continent africain. Et par ce biais, on nous a donné la possibilité de voyager d'une certaine façon et de se voir en Amérique, comme en Europe, et en Afrique même, je crois. Et ça, c'était une bonne chose. Mais pour le reste, je suis autant saxophoniste que francophone.
Et pour vous, Emily Boom ?
Alors, ce que le mot de francophonie m'inspire...
Vous avez eu un prix quand même.
Oui, je sais. Et j'en suis ravie. Je suis ravie de ce prix parce que tout d'un coup, je vais me déployer et déployer mes livres, ma littérature, dans des lieux où elle n'aurait peut-être pas été.
5 continents.
Oui, si je n'avais pas eu ce prix. Tout d'un coup, j'ai vu le calendrier qui m'était présenté et j'ai trouvé ça génial. Parce que c'est un moyen, c'est un média aussi, la francophonie.
Alors, Dany Laferrière, il y a 10 ans, le 28 mai 2015, vous faisiez votre entrée à l'Académie française, alors que vous ne possédez pas la nationalité française. C'est-à-dire que vous préférez l'attachement à la langue à l'appartenance nationale.
Oui, mais la question ne s'adressait pas à moi. C'est Hélène Carrère-Dancausse qui, voulant me faire participer à ces réunions du jeudi, a demandé au président Hollande, et depuis Louis XIII ou Louis XIV, c'est le chef de l'État qui est le protecteur de l'Académie française, qui ne dépend de personne d'autre. Et si l'Académie française, c'est l'Académie de la langue française ou de la France ? Et Hollande a répondu, c'est l'Académie de la langue française. Donc à ce titre, j'ai pu rentrer. Vous savez, s'il n'y avait pas d'étrangers à l'Académie française au tout début, c'est parce que la France, dans son immense, fallait dire vanité, n'a pas pensé que quelqu'un pourrait venir d'un autre pays que la France et entrer à l'Académie. Donc ils ont oublié de mettre l'interdiction, finalement.
Emily Boom, vous qui êtes camerounaise, vous souscrivez à ce que vient de dire Dany Laferrière ?
Moi j'aime la terre aussi, j'aime les lieux. Ceux dont je viens, ceux où je vais, j'ai un lien particulier avec ça. Donc, je pense que la langue, elle nous lie et elle est très belle. Elle est un lieu à part entière. Mais j'ai une espèce de tendresse pour les géographies. Je trouve qu'elles sont importantes.
C'est ce qu'on ressent dans votre livre, Campo, ce village.
Oui, c'est, ça compte.
C'est un personnage.
Oui, ça compte.
Et d'ailleurs, glissant un très joli mot là-dessus, le lieu est incontournable.
Alors j'aimerais que vous nous lisiez, si vous le voulez bien, Dany Laferrière, un extrait de votre discours de réception à l'Académie française.
Alors ce 12 décembre 2013, j'ai voulu être en Haïti, sur cette terre blessée, pour apprendre la nouvelle de mon élection à la plus prestigieuse institution littéraire du monde. J'ai voulu être dans ce pays où, après une effroyable guerre coloniale, on a mis la France esclavagiste d'alors à la porte, tout en gardant sa langue. Ces guerriers n'avaient rien contre une langue qui parlait parfois de révolution, souvent de liberté. Ce jour-là, un homme croisé à Port-au-Prince, peut-être Legba, m'a questionné au sujet de l'immortalité des académiciens. Il semblait déçu de m'entendre dire que c'est la langue qui traverse le temps et non l'individu qui la parle, mais que cette langue ne perdurera que si elle est parlée par un assez grand nombre de gens. Il est parti en murmurant « Ah, toujours des mots ». C'est qu'en Haïti, on croit savoir des choses à propos de la mort que d'autres peuples ignorent. La mort est là-bas, plus mystique que mystérieuse.
Il y a une phrase que j'ai relevée. On a mis la France esclavagiste à la porte tout en gardant sa langue. Cette phrase, elle m'a fait penser à Kateb Yassine, la langue française comme butin de guerre.
J'aime bien Kateb Yassine, mais je ne mettrai pas la guerre avec la langue. Elle a toujours relié, et si l'on peut dire, ça sert vraiment à ça, à mettre ensemble les gens. Je crois que c'est les gens qui portent la guerre, mais la langue finit par reconstruire, retisser.
Mais il y a parfois l'idée qu'il faudrait presque se débarrasser de la langue de l'envahisseur et du colon. Et c'est vrai que vous voyez les choses de manière très différente.
Quand j'étais en Haïti, je me souviens, il y avait la créolité qui était très forte dans les années 70. Et on disait que la France, naturellement, la langue française surtout, était responsable de notre situation, de la colonisation, et que le créole va nous placer. C'est une langue de conquérant, c'est une langue de colonisateur. J'arrive à Montréal et on me dit qu'ici, la langue française est dominée, écrasée par l'anglais, parce que l'anglais, c'est une langue de colonisateur et c'est une langue de conquérante, et que nous parlons français, nous sommes des dominés. J'ai quitté à un moment donné en 90 pour aller à Miami et on m'a dit que la langue espagnole qui domine à Miami, puisque c'est la première langue, même si on est en territoire américain, est une langue de conquérante, c'est une langue de dominateur, et qu'il faut que l'anglais fasse un effort pour ne pas se laisser dominer sur son propre territoire. Donc vous voyez, il suffit de voyager un peu pour voir que les choses changent.
Oui, il est quand même souvent question de guerre quand on parle de langue.
Oui, mais ce n'est pas de bonne guerre. Je crois que c'est pas la langue qui fait la guerre. La langue a tendance à relier, c'est ce que je dis. C'est un ensemble de codes. Je ne crois pas que la langue puisse appartenir à quelques groupes donnés.
C'est intéressant que vous parliez de la langue comme manière de relier. C'est l'étymologie du mot religion. Donc c'est votre religion.
Oui, non, moi, non, pas du tout. Je n'en ai pas. Et c'est peut-être le bonheur de l'instant. Il y a quelqu'un qui a une librairie qui s'appelle la librairie de l'instant.
Oui, ben voilà.
Et c'est peut-être le bonheur de l'instant qui me...
Sandrine Babu qui est avec nous.
Qui me fait rêver. Et non, pas du tout. Ni langue, ni religion, ni quoi que ce soit qui soit lié à un concept. Et pas du tout.
Et la langue ne s'enferme pas, en fait, nulle part.
Non. Non, elle n'appartient à personne non plus. On dit la langue française, ça n'a rien à voir avec la France. C'est un ensemble de signes, de codes qui est fait par les gens. Vous savez, c'est jamais les peuples qui font la guerre. C'est des groupes, c'est des élites, c'est des gens. Si on leur demande, ils vous diront non, on n'a pas envie d'aller mourir. D'ailleurs, ils sont les premiers, c'est la chair à canon. Et c'est eux qui font la langue. Donc vous voyez, si vous descendez un peu plus bas, pour aller trouver les vrais forgerons de la langue, vous trouverez des pacifistes.
Daniela Ferrière, Aime les Boum, on se retrouve dans quelques minutes. On parlera plus en détail de vos livres respectifs et notamment de cette phrase que vous avez lue, Daniela Ferrière, au sujet d'Haïti et qui rejoint votre dernier livre, La mort là-bas est plus mystique que mystérieuse. Mais avant ça, on écoute Bertrand Belin, L'inconnu en personne.
Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, d'Adam, mais j'entends leurs pas dans le désert. J'entends leurs pas dans la prairie. En ville, sur une place, dans l'allée des cimetières, dans l'allée des grandes surfaces, à l'appel du printemps, je les entends se faire des promesses de hauteur, de souplesse, d'argent. Je les entends faire des prières, souvent pour eux-mêmes, parfois pour leurs congénères. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, dedans. Il y en a un au bord du Nil, il y en a une dans un cul-de-sac, un autre accroupi dans la flaque, le doigt dans une anémone, le rire qui carillonne, la face qui rayonne, une autre au bout de ses efforts, emporté dans la mort, l'amour, le carbone, je n'ai pas connu en personne. Les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, dedans, il y en a une aux quatre vents qui regarde l'horizon, il y en a deux sans solution parmi les renoncements. L'âge de fer, il frissonne à l'air du pétrole, lassé des belles paroles, il frissonne, je n'ai pas connu en personne. Les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs dedans.
Vous écoutez, etc. Et nous sommes toujours en compagnie de la romancière camerounaise Emily Boom et de l'académicien et écrivain haïtien-canadien Dany Laferrière. Dany Laferrière, Grand intérieur rouge, le titre de votre livre, c'est aussi le nom d'un tableau de Matisse. Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce tableau rouge, cet intérieur bourgeois? Qu'est-ce qu'il représente pour vous?
Ah, pour moi, c'est un tableau magnifique, c'est un tableau primitif haïtien. D'ailleurs, j'ai une relation, une histoire presque même personnelle avec ce tableau. Quand j'ai publié mon premier livre, « Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer », et c'était
le titre est génial.
Sur la couverture. Et le tableau, je l'ai mis sur la couverture et j'avais peur que l'éditeur le refuse, et j'ai écrit quelque chose à propos du tableau dans le livre pour lui dire il faut le mettre absolument. Il l'a mis, et le livre a eu un certain succès au Québec, on en a envoyé 3000 en France, et immédiatement les héritiers Matisse, ou je ne sais pas qui avait possédé le tableau, ils ont saisi le tribunal de Paris et ils ont enlevé les 3000 livres et 40 ans plus tard. Et les mêmes propriétaires du tableau m'ont demandé de faire un livre avec le tableau. Et ils avaient oublié.
C'est ce que j'allais vous dire, parce que là, il est
en quatrième couverture de livre, et je parle. Et donc, il faut simplement attendre. Tout arrive 40 ans plus tard.
Dans votre livre, il y a une phrase qui m'a beaucoup plu. Vous écrivez « Peindre est une cérémonie mystique et regarder, c'est participer ». On pourrait dire la même chose de la littérature, pratiquement.
De la vie aussi, parce qu'on fait les deux, nous les humains, on regarde, et puis des fois on participe, et puis on prend un recul. Est-ce pourquoi que l'élément fondateur de ma littérature, c'est la fenêtre? Mais cette façon de regarder et d'agir en même temps, ou d'agir un peu plus tard et de revenir avec les souvenirs de ces éclats de la réalité quotidienne, et je crois que c'est ça la littérature.
Emily Boom, dans votre livre, vous questionnez le destin. Est-ce qu'on le subit, ce destin, ou est-ce qu'on le construit?
Je pense que ça change pas grand chose, à vrai dire. Pas la conscience immédiate au moment où les choses arrivent. On se contente de vivre, de faire mieux. Et c'est ce que font ces personnages sans se poser à aucun moment des questions existentielles. Ils se contentent, oui, d'être profondément dans le moment qu'ils traversent et dans la vie.
Ils sont aussi tournés vers le passé. Vous écrivez, nous sommes les enfants des mangroves, des fleuves et des océans. Nous sommes issus du fracas de ces eaux troubles. Nous portons en nous la fin des mondes, l'appétit de nos pères pour les horizons sans limite. Tout me ramène à cet endroit, à ce que tu dis ne pas comprendre. Et ça pose la question des racines. Et j'ai pensé, on parlait tout à l'heure d'Edouard Glissant, à ces racines rhizomes, en fait, qui traversent tout.
Et c'est ce que je disais à propos des géographies. À un moment ou à un autre, on se pose la question des lieux. Quand Nella dit à ce moment du livre, nous sommes de cet endroit-ci, et c'est de cet endroit que vient se fracasser le monde. Et à chaque fois, nous revenons ici. Ça veut aussi dire que quand nous partons, nous portons le lieu. Le lieu ne fait pas que. On sait deux choses quand on part. On sait que on ne manque pas, c'est-à-dire que l'absence se referme sur nous. d'autres choses se passeront sans nous, et on sait aussi que le lieu, et nous habitons le lieu comme les lieux nous habitent. Et c'est toute la problématique de ce livre, c'est un moment d'établir le rapport entre la terre, le lieu, les trajectoires et les personnes que nous sommes.
Daniela Ferrer, vous qui êtes beaucoup partie, ça doit vous parler, ce que dit Emily Boom.
Oui, tout à fait. Je ne sais pas si tout se passe sans nous, parce que le livre d'Emily Boom, je suppose que quand il retournera au Cameroun, il y a des choses aussi. Nous avons des traces, et nous laissons des traces et des prolongements. Et je me souviens d'ailleurs, ça faisait 20 ans que j'avais quitté Haïti, je suis rentré. Et à l'aéroport même, quelqu'un m'a apostrophé. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit à la télévision dernièrement. Moi, je ne le voyais pas, mais lui, regardait la télévision du Canada ou du Québec. Il m'avait vu et il a une opinion à propos de ce que je viens de dire. J'ai dit, mais ça fait 20 ans que j'ai quitté le pays. Il a dit, oui, mais vous êtes encore là avec nous, quelque part. Donc, il y a des prolongements, il y a des ombres portées, des réverbérations. Il n'y a aucune possibilité que tout se ferme. Mais quand même, j'aime beaucoup ce qu'elle a dit à propos de, qu'on le veuille ou non, les choses se passeront sans nous. Je ne sais pas s'il faut faire semblant de l'avoir vu venir, et si on peut se contenter de dire que je pensais que ça allait venir, mais je ne crois pas que ça changera quelque chose.
Mais c'est intéressant, parce que ce que vous venez de décrire, c'est ce qu'on pourrait appeler le destin, si on changeait la définition.
Oui, mais elle avait ajouté, Emily, que
merci que, de me commenter.
Oui, oui. Elle avait ajouté que c'est comme qu'on le veuille ou non. Si on ne sait pas ce que c'est, est-ce que ça compte?
Oui, c'est exactement ça. Qu'on croit au destin ou pas, moi je crois au destin, j'ai un sens du sacré, mais qu'est-ce que ça change, à vrai dire? Dans ce que j'ai à faire, dans ce que je fais et de ce que je raconte, ce qui me bouleverse et me touche, que je crois au destin ou pas, ça change pas grand-chose.
Ton destin, c'était de mourir là. Son destin, c'était de mourir
une
là.
Une fois que c'est arrivé, on sait.
mais c'est ce qui est drôle avec ce concept. Oui. C'est que c'est toujours après coup. Oui. En studio avec nous, j'accueille également Sandrine Babu, qu'on a un peu entendu tout à l'heure, de la librairie L'Instant, dans le 15e arrondissement de Paris. Sandrine, vous avez lu et adoré le livre d'Emily Boom.
Oui, votre livre a vraiment été un immense plaisir de lecture, donc c'est peu de dire que je l'ai adoré. Il était l'an dernier dans les livres sélectionnés pour le prix de l'instant que j'organise à la librairie. Et du coup, il m'a donné très envie de découvrir vos livres précédents, parce que j'ai vraiment découvert une grande écrivaine. Et ce que j'ai beaucoup aimé, et ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il est éminemment romanesque. Je suis désolée, j'ai la même extraction que vous, c'était pas prévu que vous l'utilisiez. Et ce côté romanesque vraiment est très très agréable. Et d'ailleurs, Lilia, vous échangez récemment avec Hubert Haddad dans une de vos émissions qui pointait le manque d'imagination dans la littérature contemporaine. Et voilà, je pense que maintenant il va être rassuré.
C'est vrai que Hubert Haddad parlait de ce manque d'imagination dans les livres récents. Je voulais vous demander votre avis, Daniela Ferrière. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi?
Non, je ne crois pas dans cette question d'imagination. Je crois que quand j'étais enfant, vous savez, l'imagination n'est pas seulement dans les livres, elle est aussi dans la façon de lire. Quand tout corps plonge dans l'eau, reçoit une poussée verticale de bas en haut égale au poids du liquide déplacé. On ne peut pas être plus science que ça. Mais moi, j'ai pas cessé, enfant, de voir un couple en train de faire l'amour dans une piscine. Tout corps plongé dans l'eau, reçoit une poussée verticale de bas en haut égale au poids du liquide déplacé. Et pour moi, c'était érotique, on ne peut plus. Donc, ce n'est jamais une histoire du livre lui-même ou du livre seulement. C'est aussi une histoire de la lecture pour l'imagination. Je crois qu'on ne peut pas.
Mais est-ce que les lecteurs ont toujours autant d'imagination?
Enfin, ça, je peux pas savoir. Et on a toujours beaucoup d'imagination. Vous savez, les gens qui disent qu'ils n'en ont pas, ils sont encore plus enflammés. Ils résistent à cela et ça fait partie et du jeu. Il est impossible de dire la réalité telle qu'elle est avec des mots improbables, des mots, on n'est pas très sûr, une grammaire et qui n'est pas encore déterminée. Et je parle presque dans l'Académie française dans ce sens-là. Et nous y réfléchissons depuis 450 ans sans nous accorder sur quoi que ce soit. Il est impossible. Donc tout n'est qu'imagination.
Alors, on revient à vous, Sandrine Babu. Vous avez donc lu Le rêve du pêcheur d'Amélie Boom. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je précise que c'est un roman choral qui tisse les destins de trois générations d'une famille camerounaise, un pêcheur pauvre, Zacharias, sa fille Dorothée et le petit-fils Zachary exilé à Paris qui devient psychologue et qui cherche à comprendre ce qui le hante. Sandrine Babu, vous, en tant que libraire, qu'est-ce qui vous a interpellée ?
Alors déjà le titre, très intriguant, Le rêve du pêcheur, ces prénoms qui se ressemblent aussi, Zacharias, Zachary, on est un peu perdu, ces histoires qui s'entrelacent et puis tout ce qui se met en place progressivement. Et Emily Boom, j'ai aimé suivre Zachary dans la quête de son passé, voir comment il se débat avec ses tourments intérieurs. Alors la vie n'est vraiment pas un long fleuve tranquille dans votre roman, alors je prends cette métaphore parce que l'eau, le fleuve, la mer sont très présents et très bien décrits dans votre livre. Et surtout, j'ai été très touchée par vos personnages qui sont tous très présents, très incarnés. Les femmes sont très importantes, même si le narrateur est un homme. Et j'ai été touchée aussi par les liens de sororité qui les unissent. On comprend ce qui les anime, quels sont leurs rêves, leurs espoirs, leurs blessures. Et j'ai l'impression que comme Zachary, vous observez beaucoup avant d'écrire. Vous construisez votre roman avec des histoires auxquelles on croit profondément. Et comme vous l'écrivez, je vous cite, « La vie d'un homme ne tient pas en quelques mots. » Et vos mots sont très bons.
Merci. Et Sandrine Babu, vous aviez une question.
Oui. Alors, dans ce livre, comme découvriront les lecteurs qui ne l'auraient pas encore lu, vous changez de style, souvent en fonction des narrateurs, donc parfois dans un style assez très classique, poétique et parfois argotique aussi, avec cet argot bien particulier. Alors, comment on fait en tant qu'écrivain pour passer d'un style à l'autre sans que ça, c'est jamais artificiel dans votre livre? C'est quoi cet exercice?
On parlait des langues tout à l'heure. Je pense que c'est aussi la manière dont les langues m'habitent, toutes les langues que je suis, et qui sont assez fluides. Dans ce roman, l'essentiel, c'était d'avoir une tonalité. La tonalité fait partie du roman. Et à partir du moment où je faisais parler deux personnages dans un bidonville de Douala, je pouvais pas du tout les faire parler de la même façon que je ferais parler des personnages à Paris ou encore des personnages dans un village côtier du Cameroun, où j'écris en français, mais il est évident à la lecture aussi qu'ils parlent pas ces gens-là en français. Et il se trouve que toutes ces façons de parler, toutes ces façons de changer de code de langue en fonction de qui on est en face et de ce qu'on a envie de dire, c'est aussi ce que je suis. C'est ce que je fais tout le temps. Donc pour moi, c'est assez naturel. Et l'essentiel, c'est que c'est une forme de fluidité. Et j'ai aucun doute dans l'élasticité de notre cerveau, finalement, à accueillir tous ces changements tant qu'ils viennent nourrir le roman, d'une certaine façon.
Absolument.
Écoutez, c'est réussi.
C'est magnifique. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est l'obsession de la mort, c'est-à-dire de la mer. On peut aller jusqu'au bout.
Je pense que c'est la plus intéressante.
Oui, parce que c'est là que c'est arrivé. On peut aller. L'étonnement d'un personnage par rapport à l'amour immodéré qu'un autre peut porter à la mer. Mmh. C'est à la fois, on a parlé de destin, je crois qu'il faut parler plutôt de tragique. Mmh. Il y a quelque chose de tragique, et profondément tragique et dans cette histoire. On va pêcher par là où on aime et l'endroit où qui nous touche le plus, comme cet homme qui est en chute libre après avoir été ce jeune homme si magnifique, si courageux, si brave, qui a fait une déclaration d'amour, une demande en mariage en pleine nuit. Et tu vois, il y a quelque chose de très beau.
Vous venez de dire, on a pêché par là où...
on meurt par là où on a pêché, ou voilà. Quelque chose comme ça. Mais on vit aussi, non ?
Oui, mais vous qui racontez le rêve du pêcheur, je trouve que c'est beau, c'est aussi la polysémie du mot pêcheur.
Oui, et même, je me souviens que quand j'ai envoyé mon manuscrit à mon éditeur, en rigolant, on s'est dit, ça aurait pu être l'autre pêcheur.
Mais tout à fait, oui, c'est pour ça que
Bien sûr, il y a une forme de...
Bien sûr, toujours, tous les apôtres étaient des pêcheurs, ne l'oubliez pas.
Il y a quelque chose lié à la mer, à l'océan. À ce que c'est, tu as fait le lapsus tout à l'heure, Dani, de la mer, la mort, mais aussi l'horizon, l'ailleurs, l'immensité, enfin tout ce qui est tellement différent de nous et qui nous constitue aussi.
Plusieurs choses, comme disait Borges, ce qui sépare et relie.
Bien sûr, c'est ça.
Et ce que vous venez de dire, Aimez-vous, me fait penser à la dernière phrase du discours de Daniel Laferrière, qu'il a lu tout à l'heure, « La mort est là-bas plus mystique que mystérieuse ». C'est une phrase qu'on aurait pu trouver dans votre
Totalement.
Livre.
Totalement. Ça m'a fait sourire de lire ça tout à l'heure. Et c'est tellement ça. Et toutes les morts de ce livre, elles sont moins mystérieuses que mystiques. Elles arrivent parce qu'elles doivent arriver à un moment précis du livre. Il n'y a pas énormément de suspense dans ce livre, on voit arriver les choses. Mais elles sont profondément mystiques et c'est ça qui fait la différence. Et c'est aussi ça qui fait que, malgré le fait qu'elle soit morte, elle reste profondément reliée à la vie.
Vous avez peur de la mort, vous, Aimez-vous ?
Non, enfin, de moins en moins. Plus je vieillis, moins j'ai peur. Aujourd'hui, j'aurais peur qu'il arrive des choses aux personnes que j'aime. Mais moi, toute seule, non. Plus je vieillis et plus je me sens libre, et moins j'ai peur, à vrai dire.
Et vous, Daniela Ferrière ?
Mais j'ai écouté Emily, vous savez, très tard, bien plus tard. On pourrait avoir peur et aussi, et c'est toujours étonnant de voir des très 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 vieilles personnes qui ont peur de la mort. Et quand j'étais enfant, et j'avais compris, elles n'avaient pas peur de la finalité et elles avaient peur du rêve de tout être humain de mourir dans leur sommeil. Et elles n'aimaient pas ça parce que l'idée est possible chaque nuit de ne pas se réveiller. Je me souviens, j'avais ma vieille voisine qui disait « J'ai peur de ne pas me réveiller ». On a beau lui dire, mais au contraire, c'est la mort de Saint-Joseph. C'est pour ça, on prie d'ailleurs chez moi pour qu'on puisse mourir dans son sommeil, sauf les généraux ou les militaires qui doivent mourir à la guerre, qu'ils y aillent. Mais elles avaient peur de cela, d'une sorte de que cela finisse et dans le bonheur. La peur de mourir dans le bonheur.
Je crois que j'aimerais pas mourir dans mon sommeil.
Voilà,
c'est
voilà.
Pas une idée qui me séduit.
Voilà. Très très vieille et mythe.
Alors, je voudrais être là jusqu'au bout.
Vous aussi, Daniel Laferrière, j'imagine.
Oh, vous savez, à moi c'est statistique, il n'y a aucune raison de mourir tant qu'on n'est pas mort.
C'est clair.
Alors, puisqu'on évoque les questions de forme, Daniel Laferrière, votre texte qui s'appelle « Grand intérieur rouge », on l'a dit, s'inscrit dans une collection partagée entre votre éditeur, Grasset, et le Centre Pompidou. L'idée, c'est 10 écrivains, 10 œuvres, et un postulat que je trouve intéressant. Il existe un seul art. Vous avez décidé de créer une sorte de ciné-roman, un roman avec des dessins, des correspondances artistiques. Comment vous avez imaginé cette forme ?
Ah non, c'était simple. Deux choses. D'abord, je voulais parler d'Haïti dans un contexte qui ne soit pas de désespoir. Et pour cela, vous n'avez pas envie de répondre aux journalistes à la question « Ce pays, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe encore ? Quand est-ce que ça va finir ?» Alors que je sais que ce pays est extrêmement vivant, c'est l'un des plus puissants du monde. Très peu de pays auraient résisté à un tremblement de terre qui a causé 300 000 morts et qu'on parle d'autre chose après. Et qu'on parle d'autre chose, on parle même pas du tremblement de terre. Et résister, on vous envoie les malheurs que vous pouvez supporter. Ah ben là, on a un exemple extraordinaire. Donc je voulais parler de peinture, je voulais parler d'un jeune artiste, du fait que la peinture est un art aussi populaire que le football en Haïti.
Ce qu'on sait peu, en réalité. Ouais.
Par exemple. Donc ça veut dire que si vous entendez parler de ce livre ou si vous m'entendez parler, au lieu de vous plaindre, au lieu d'avoir pitié d'Haïti, eh bien essayez de faire connaître un jeune artiste. C'est plus. Et vous, donc de cette violence qu'il y a dans la peinture, dans l'art, essayez de voir que l'art qui semble un peu bourgeois de Matisse dans Grand intérieur rouge, de voir comment il se comporterait dans un bidonville de Port-au-Prince où la violence se tient en ce moment d'ailleurs, au moment même où nous parlons. Donc j'ai pris ce tableau Grand intérieur rouge et je l'ai donné à voir à un jeune artiste de 17 ans et qui est c'est quelqu'un qui est impertinent. Il trouve que Chagall, son bleu est trop envahissant. Il trouve que parfois, surtout les gens qui aiment imiter ou qui voudraient bien être comme Basquiat sont d'un ennui mortel.
Il dit que tout le monde veut imiter Basquiat.
C'est ça, c'est d'un ennui. Il suffit qu'il soit noir et qu'il soit peintre, ils veulent
Pourtant,
être Basquiat.
Moi, j'ai trouvé du Basquiat dans vos dessins.
Dans ses dessins à lui. Dans ses dessins à lui. Non, je crois que c'est l'énergie. Et il faut pas confondre Basquiat avec cette énergie-là. Il est un des représentants de cette énergie-là. Mais elle peut circuler n'importe où. Et dans tous les styles, dans toutes les manières, dans toutes les histoires. Donc j'ai voulu un peu transporter ce grand tableau presque classique contemporain à Port-au-Prince dans un bidonville.
Alors Daniela Ferrière, Emily Boom, vous restez avec nous. Dans quelques instants, on retrouvera Mac Vino, notre libraire québécois, qui a des questions pour vous, Daniela Ferrière, et puis on entrera ensuite dans vos ateliers d'écriture.
La vie est une chance, le reste du mérite. Même quand t'as pas assez souffert, c'est terrible. Ne pas avoir misé sur la bonne personne, perdre la chemise à la mauvaise somme. La poisse t'appelle par ton diminutif, chaque décision définitive. Si tu cherches l'amour, c'est que tu l'as laissé passer. Tes battements de cœur, ils vont s'espacer. Accepter que t'étais pas prêt, ce qui marche pas sera pour la fois d'après. Une chance. De rigolade, à temps passe trèfle à quatre feuilles où c'est la dégringolade. Le perdant pleure, mais la victoire est amère, même plus que la défaite. Demande à ta mère, les gens prennent un guide et lui marchent dessus. Un appel bidon, moi j'enfile un par-dessus, car elle ne sourit qu'aux audacieux, inaperçus, pour qui aucun effort n'est superflu. Ils savent pourquoi on est tous mal, parce qu'on part en guerre avec une seule balle. Pas tous la baraque, à tout le monde ne passera pas du bar à table. C'est une vision du bonheur, c'est voir le jour au crépuscule et trouver des couleurs. Marie, un virus positif, pique mes flowers, la voix brise le tissu. Je suis le postillon contre l'incendie, la société offshore contre 20 centimes. La fortune, faut la saisir, pas l'étrangler. Ou au dîner de la joie, tu seras l'étranger. Espérer, c'est l'évasion, caresser l'occasion, puis l'éclosion.
Quoi?
Écoutez, etc. C'était Oxmo Puccino, Une chance, et nous sommes toujours en compagnie de la romancière camerounaise Emily Boom et de l'académicien Daniela Ferrière.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, etc. Lilia Hassem.
Daniela Ferrière, pendant qu'on écoutait Oxmo Puccino, vous nous avez dit c'est difficile de faire lire des tableaux.
Oui, c'est difficile de faire lire des tableaux, parce que dans ce livre, il y en a beaucoup. Il y en a à chaque page, il y a même deux expositions, deux mini-expositions de ce jeune homme de 17 ans. Et les gens sont tellement habitués, dès qu'ils voient un livre écrit par un écrivain qui est habitué à utiliser des lettres, ils plongent sur les mots. Et leur dire, vous pouvez regarder aussi
les tableaux.
Oui, oui, oui. Donc ils essaient de, c'est parce qu'ils sont tellement intéressés à résumer un livre, à savoir de quoi ça parle, et c'est avec les mots qu'ils pensent qu'ils peuvent appréhender cela. Et moi, j'ai tenté de faire lire autrement. C'est-à-dire, quand vous prenez un livre comme ça, qui fait moins de 100 pages, vous avez un livre très mince. Mais si vous prenez chaque tableau, il y en a près d'une centaine dans le livre, et ça veut dire que chaque fois, si vous voulez décrire ce tableau, ça vous aurait pris une page et demie. Et ça veut dire qu'on a une affaire, un livre de 350 pages, même plus. C'est ça que j'ai tenté de faire.
En fait, ce serait intéressant de le lire avec un enfant.
Ah ben les enfants, quand j'ai publié mon premier livre dessiné, c'était Autoportrait de Paris avec chat. Il y avait un petit garçon qui accompagnait sa mère et qui regardait le livre. Et il était intéressé. Et sa mère lui dit, mais tu peux pas comprendre, c'est un académicien. Et puis il a résumé, il a dit pas du tout. C'est un jeu vidéo en papier.
Ah bah voilà, ils comprennent mieux que nous. Emily Boom, vous aussi, il y a cette part de jeu, puisque vous changez les styles, les tonalités dans votre livre, même si on garde évidemment une fluidité. Cette part de jeu d'enfant, oui. C'est quelque chose qui compte pour vous?
Oui, non seulement ça compte, et puis je pense que ça fait partie intégrante de la créativité. Il y a un profond bonheur à créer, et puis à inventer des styles, et puis à... Voilà, moi en tout cas, je le prends comme ça. Et puis ce que Dany fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a une grande liberté aussi dans ce que tu fais, dans tout ce que tu crées, dans la façon dont tu mets les choses ensemble. Et si tu désarçonnes quelques-uns de tes lecteurs parce que l'académicien ne peut pas s'occuper de peinture, comme ça, voilà, on apprend à lire différemment.
Alors, c'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que ça fait écho à une réflexion de Mike Vino, notre libraire québécois. Daniel Ferré, on part dans un pays que vous connaissez bien pour y retrouver un libraire que vous connaissez aussi. Mike Vino, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes rencontrés à Montréal tous les deux dans votre librairie Mediapole et au micro de votre émission hebdomadaire, Mike Vino, libraire de force. Donc, je vous laisse entre amis. Hein. Je crois que vous avez des choses à vous dire.
Il faut dire que libraire de force, c'est d'après moi, c'est pas loin d'un titre célèbre de la littérature québécoise, L'hiver de force de Régent Ducharme.
Exactement, ben voilà. Dany, c'est une belle allusion. Bonjour Lilia, bonjour Dany, heureux de vous retrouver. Heureux aussi de vous retrouver dans ce livre, spectacle, roman, toile de peintre. Ces dessins partout dans les pages, ces couleurs, ces personnages. Je vois bien qu'ils ne se substituent pas aux mots. Les lignes bleues ne sont pas des nouvelles phrases. Les points jaunes ne sont pas uniquement les mots renouvelés. Si vous écrivez souvent dans votre baignoire, là, c'est la plage de la page que vous avez totalement habitée. Et dans cette tentative, fort surprenante et réussie, bien sûr, de nous raconter différemment, une autre fois, ce qu'est votre pays, dans cet effort de rendre nouveau le récit, de rendre mouvant les personnages, vous revenez aux sources de votre écriture, vous rendez émouvant les courts passages, vous racontez en images qui disent beaucoup de mots. Vous racontez la mort de Nyx par le regard de Nox, par la rage d'Iso, mais c'est le rouge partout qui affecte tout le monde. Votre cinéroman, c'est ce qui s'affiche sous le titre de votre livre, sous grand intérêt. Rouge, trace le mouvement de la violence et détaille les douceurs de l'art. Oh, je vous connais assez, je vous ai suffisamment lu pour déceler dans cet objet en lettres et couleurs un besoin de dire encore ce qui vous restait à raconter de vous avant, tout en racontant avec la voix de celui que vous êtes aujourd'hui.
Dany Laferrière.
Merci pour ce bien sûr. Ce bien sûr, c'est un très bon mot de la langue française et réussi, bien sûr. Et puis merci aussi de m'enlever l'obligation de raconter mon livre, puisque vous l'avez fait brillamment et vous avez fait apparaître ces personnages au nom, disons, monosyllabique, Nyx, Nox,
et Iso.
Iso, Kos, et ce petit monde de jeunes gens affairés. Et talonné par la mort, parfois.
Mike, j'aimerais vous demander votre sentiment de libraire sur le livre de Dany Laferrière et notamment la question de la forme qu'on a déjà abordée.
Oui, nous le savons, on le constate, ce livre est un peu ardu. Ah, du moins au premier choc, au premier abord, au premier œil. Mais je vous vois bien me répondre, Dany. Vous savez, mon cher Mike, ce livre, c'est un grand jeu de séduction. On ne peut s'offrir d'un coup, il faut en retirer couche de couleur après couche de couleur pour que le sujet soit nu. Et rien de grivois ici, hein. Juste et encore la violence du rouge, la courbe des dessins, la douleur des destins. Le sujet nu, c'est vos lecteurs ou c'est vous? Ne me dites pas, je vous propose de répondre. Dans ce ciné-roman, on retrouve beaucoup plus de Laferrière qu'on ne peut l'imaginer. On y décèle encore plus de Dany que cela ne semble le révéler. Mais surtout, et tout en toute fin, comme la fin d'un film ou la signature au bas d'une toile, il y a Matisse, le rouge, vous et quelques solitudes qui cherchent à se comprendre, se faire aimer et être écoutés des autres. Et ce grand intérieur rouge devient ce large extérieur où tout bouge.
Bah dis donc, Mike, la prochaine fois, si Dany Laferrière est malade, vous viendrez comme remplaçant?
Bien sûr!
Il me connaît, le Québec aussi me connaît, puisque je l'ai déjà dit que je suis né en Haïti, mais je suis né écrivain au Québec. Et c'est important parce que tout à l'heure, Emily n'a cessé de parler du lieu. Le lieu est important, aussi le lieu du lectorat. Vous savez, j'ai pris toute ma sensibilité en Haïti. Et tout vient de là, tout est tiré de là, tout pousse. Mais, Mais l'élément important pour un écrivain, c'est son lecteur, sa lectrice. Et c'est au Québec que cela s'est passé. Et on s'est accordé, quand Mike dit que c'est peut-être ardu, il parlait de vous, c'est-à-dire la France. Et, ou peut-être le Cameroun, mais pas pour le Québécois qui me connaît, pas pour ces gens qui savent chez moi ce goût de jouer. Tout à l'heure, on a parlé d'imaginaire, et je crois, j'avais laissé un doute sur l'imaginaire, sur le côté romanesque, mais la créativité pour moi, et c'est l'incarnation, c'est mettre l'imaginaire dans le physique, dans le corps, c'est le jeu. C'est l'enfance. Nous ne cessons de faire cela, et je tends à faire et renaître ce goût de jouer et ce goût de faire comme on veut. C'est moi ce que je fais comme je veux un livre, et après je vais le défendre du bec et des ongles pour le faire connaître, pour faire en sorte que les gens s'y intéressent. Mais je ne lâche pas une seconde, et quand je l'écris, j'écris dans ma détermination la plus profonde. Je fais comme je veux.
Ça, vous avez cette liberté. C'est vrai que les jeunes romanciers, notamment les primes romanciers, ont parfois une idée de comment il faut écrire. Ça, c'est une idée contre laquelle il faut se battre.
Ben, comment il faut pas écrire, et faites-le.
Emily Boom, vous êtes d'accord?
Je suis complètement d'accord.
Emma Guilino, vous aviez une question pour Dany Laferrière.
Oui, Dany, ma question est simple, car je sais que vous répondez longuement. Ces questions, ces couleurs, ces formes, c'est ce qu'il manquait, des mots pour dire vos convictions, ou que vous aviez besoin de tracer autrement la forme de vos émotions?
Non, pas du tout. On a besoin de deux jambes pour marcher. Je crois que les lettres et les couleurs, ça va très bien. Je l'ai vu parce que j'étais dans un aéroport et j'ai vu une maman qui donnait des crayons et du papier à ses enfants pour qu'ils restent tranquilles. Et il s'était pas contenté d'écrire des lettres, il faisait aussi des dessins. Et j'ai compris qu'on s'était trompé. On devrait toujours peindre, dessiner et écrire. De toute façon, c'est très bizarre cette histoire d'être resté pendant plus de 2000 ans sur une seule forme des lettres. Oui, bougez-vous.
Apollinaire le faisait pas.
Il le faisait des dessins avec voilà. Les lettres eux-mêmes. Voilà.
Exactement. Donc. Et Rimbaud mélangeait les couleurs et
voilà.
Et oui, les oui, lettres ben, d'une absolument. Certaine manière.
Oui, tous ces jeunes gens avaient soupçonné l'affaire.
merci beaucoup, Mike. Vous disiez, Dany Laferrière, les lettres et les couleurs, ça va très bien. Dans vos livres, à tous les deux, Emily Boom et Dany Laferrière, on trouve des couleurs dominantes. Chez vous, Emily Boom, c'est le bleu, y compris la couverture folio de votre livre.
On a fait fort.
L'univers des écoliers, l'uniforme des écoliers, ouais, la mer, le bleu de l'horizon, du départ, le bleu de l'exil, de la mélancolie. Est-ce que vous réfléchissez en images quand vous écrivez?
Peut-être pas. En tout cas, l'image fait. Enfin, je sais pas comment. Je vais essayer d'être un peu plus.
Comment écrivez-vous?
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'écris. Au moment où j'écris, tout nourrit le roman, y compris les couleurs, y compris la musique, y compris tout ce que je rencontre. Je suis totalement poreuse à tout. Donc, je peux pas dire à un moment j'ai pensé à une couleur, j'ai capté la couleur, et au moment d'écrire cette histoire, cette couleur-là s'est imposée. Voilà. J'ai pas forcément passé en avance en me disant je vais l'introduire dans
mais
un.
C'est pas
récit.
Calculé.
Non, ce n'est pas calculé. Mais c'est vraiment. Dans une espèce de porosité totale, en se disant, dans l'écriture de ce qui est en train de se faire, tout nourrit le roman.
Mais tout est bon dans le cochon.
Voilà, exactement.
Et le roman, c'est un cochon. C'est vrai, c'est l'animal le plus propre, on l'oublie.
Le roman, c'est un cochon. Je garde cette phrase.
Non, mais d'ailleurs, ce bleu, d'ailleurs, tout le livre Grand Intérieur Rouge est un combat de couleurs. Le rouge de Matisse et le rouge aussi du sang du sang des victimes, comme du sang que répand et Iso, le tueur, qui est toujours vivant à Port-au-Prince et qui continue à tuer. Vous savez, le livre est né d'une faille. Et je comprenais pas ce garçon qui s'appelle Iso, qui tue beaucoup, plus de 2000, qui a un cimetière personnel. Et ce Iso, et qui tue, et qui s'appelle Iso 5 secondes, parce qu'il dit, en 5 secondes, je peux vous tuer comme vous pouvez me tuer. Et puis un jour, à la télévision, ou dans un sort d'enregistrement, il a dit, moi, je voudrais être musicien. Il est musicien. Et je veux être le plus grand musicien de mon pays. J'aime tellement la musique que je laisserai tomber le métier de tuer pour faire de la musique. Il a dit, d'ailleurs, ça fait 2 mois que je n'ai tué personne. Et j'ai trouvé, j'ai dit, quel est ce pays où même les tueurs cherchent à être artistes? Et j'ai dit, alors c'était là la faille, parce qu'il n'y avait aucune faille de l'atteindre, ce jeune homme qui semblait vouloir mourir. Eh bien, sa faille, c'était la renommée d'artiste. Il ne veut pas laisser la trace d'être simplement un tueur, il veut qu'on le reconnaisse comme un artiste. C'est pour ça que j'ai dressé face à lui le jeune Nix, et pour faire un combat contre l'art et Nix qui le défie en disant que l'art, c'est ce qui rend libre. Si vous ne vous sentez pas libre, c'est que ce n'est pas de l'art.
Et à la fin, c'est le bleu qui gagne.
Et à la fin, la dernière phrase, précisément, en hommage à Emelé, c'est le bleu qui gagne, voilà. Dit Nox, le poète.
Voilà, tous rejoints dans cette émission. Emelé Boum, Daniela Ferrière, on se retrouve dans quelques instants pour les conseils lecture de nos libraires francophones. Mais avant, on écoute Enchantée, Julia, les Santolines.
Désespéré quand je vois le monde, je me lève et je vois les feuilles tomber. J'ai vu d'en haut que la terre est ronde, que le vent tourne. J'ai plus de montre et plus de temps, je suis désemparé mais je dois avancer. En hiver le temps s'invite à danser, je cours. Avec un félin dans un appartement, au moins ils sont ce que je ressens, mais pas fou. La terre est toujours en mouvement, tu ne pourras plus m'empêcher d'avancer. Moi j'aime quand ça va doucement, je l'avoue. Et tous les jours j'attends qu'il pleuve. Enfin j'ai plongé dans le fleuve. Passer dans des preuves. En amour, il faut des preuves. Changement de saison, je reviens à la maison. Rêver, rêver. Quand la nuit tombe, le cœur a ses raisons.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission, etc. Nous sommes toujours en compagnie d'Emelé Boum et de Daniela Ferrière. C'est l'heure du conseil lecture de la semaine.
Etc. Lilia Hassen.
Et on retrouve notre libraire québécois Mike Vienno. Mike Vienno, vous aviez une recommandation pour Daniela Ferrière.
Oui, Dani, votre ciné-roman m'a inspiré et je vous invite à lire « Comme un ciel entre nous » de Yakuta Alika Vazovic, prix Métis 2021. Cette promenade d'une fille et de son père dans le musée du Louvre le temps d'une nuit me ramène à Grand Intérieur Nuit, un peu différemment, mais avec des connivences. L'art, les sentiments humains, l'expression des œuvres qui sont désœuvrées sans nos expressions. Cette question du père... Et toi, comment tu t'y prendrais pour voler la Joconde? Qui me fait penser et qui me fait présumer de votre questionnement intérieur quand vous vous êtes demandé « Et moi, Dani, comment je ferais pour représenter Matisse? » Vraiment, il y a dans cette nuit beaucoup de ce que vous racontez en plein jour.
Merci beaucoup Mike, et je confirme que c'est un très beau texte, Comme un ciel entre nous de Yakuta Ali Kavazovitch.
J'aime beaucoup la langue de Mike, ce goût qu'il a de vouloir nous exciter l'esprit quand il parle.
Il très... s'est donné envie. Hein.
Ah oui, là il s'est lâché là, avec son histoire de grand intérieur nuit, de jour.
Vous l'avez inspiré.
C'est un cinéaste.
Ben, merci beaucoup.
Vous vous retrouverez bientôt, je pense, à Montréal.
Oui.
Et avant de terminer cette émission, j'aimerais moi aussi recommander un livre. C'est votre précédent roman, Emily Boom, Les jours viennent et passent, qui vient de recevoir le prix des lycéens Folio 2025. 600 lycées ont participé. Alors, toutes mes félicitations.
Merci.
Et puisque cette émission a été placée sous le signe de la francophonie, je signale également le très beau livre de Laurent Seyer, J'ai pas les mots, publié chez Finitude. L'auteur réussit un tour de force, rendre compte de la pensée et du langage d'un enfant qui ne parle pas, puisqu'il est autiste. Il vient de recevoir le prix Naissance d'une œuvre 2025, et c'est mérité. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les deux, Emily Boom et Dany Laferrière. Je rappelle le titre de vos livres, Grand intérieur rouge de Dany Laferrière, coédité par Grasset, et Le Centre Pompidou, un roman dessiné dans lequel on trouve notamment cette phrase sublime « Je sais qu'on voudra me tuer pour avoir osé prendre le feu dans mes mains ». Emily Boom, votre roman « Le rêve du pêcheur » est paru chez Gallimard et chaque page porte la mémoire de ceux qui restent et de ceux qui partent. Merci infiniment. Je salue également nos libraires du jour, Sandrine Babu, Mac Vienno, et rappelle que cette émission est une coproduction avec les médias francophones publics en Suisse, en Belgique et au Canada. Merci enfin à mon équipe, Lilian Alaume à la réalisation, Cédric Diallo à la technique, Estelle Gap, Tara Nadoumi et Manon Grandière. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.
Joli temps des cailloux blancs, du temps qui va, rivière du joli temps du passé, quand le temps mettait dans son cœur, le temps de nous aimer, le temps mettait dans son cœur, le temps de nous aimer, la rivière, rivière du temps d'hier, la rivière. Où sont tes moulins d'amour? Où sont tes moulins d'amour? Et l'eau bleue qui fait le tour de tous tes moulins d'amour. La roue à aube qui tournait belle, qui tournait ronde sur la peau douce d'une aquarelle. Tididididi, tididida, rivière. Rivière du temps d'hier, la rivière. Rivière du temps d'hier, la rivière du temps déroulée quand l'eau dans ses dents, son lit de vin blanc de vin. Rivière du temps du joli temps déroulée quand le temps riait en l'amour, avait de quoi rêver. Le temps riait en amour, avait de quoi rêver. La rivière, rivière du temps d'hier, la rivière. Où sont tes moulins d'amour? Où sont tes moulins d'amour? Et l'eau bleue qui fait le tour des moulins d'amour. La roue à aube qui tournait belle, qui tournait ronde sur la peau douce d'une aquarelle. Tididi, 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 la rivière, rivière du temps d'hier, la rivière, rivière du temps. Rivière la rivière, rivière du temps d'hier là.
Ce soir je veux un verre frais et tendre. Ce soir je veux de l'herbe pour m'étendre. Ce soir je veux partir, arrêter d'étouffer et avec toi courir pour quitter ce quartier. Ce soir je veux un verre frais et tendre. Ce soir je veux de l'herbe pour m'étendre. Ce soir je veux partir, arrêter d'étouffer et avec toi courir pour quitter ce quartier. Oh, notre nuit sera au green, green, green. Oh, green, green, green. On est parti que fin. Oh, me. Oh, notre nuit sera au clair, fer, fer. Au clair, fer, fer. Loin de l'épée de serre. Oh, ouais. Ce soir, je veux du noir, du vrai, sans une lueur. Marre des cités dortoirs comme des projecteurs. Je veux une clairière pour attirer la zone. Kiffer l'atmosphère, le ciel et puis l'ozone. Ce soir je veux du noir, du vrai sans une lueur. Marre des cités dortoirs comme des projecteurs. Je veux une clairière pour attirer la zone. Kiffer l'atmosphère, le ciel et puis l'ozone. Oh, notre nuit sera au green, green, green. Au green, green, green. Loin des particules fines. Oh, me. Oh, notre nuit sera au clair. Apaiseront la terre et mettront à zéro tous ces cons qui sont fiers. Et d'un baiser bio naîtra de la matière qui sera recyclée en énergie lunaire. Green dream dream, oh green dream.
Les émissions de la journée pour accompagner vos nuits. RTS Première, il est 4h.